Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Butine tous les samedis entre 12h et 13h et la rediffusion le mardi matin à 10h. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Butine, c'est la revue de presse de l'actualité scientifique. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission. 22 avril, aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Dans plus de 184 pays à travers le monde, le jour de la Terre aujourd'hui. Donc nous allons penser à la Terre aujourd'hui, et c'est tant mieux. Naissance le 22 avril 1904 de Robert Oppenheimer, physicien américain. Il s'est distingué en physique théorique et puis ensuite comme directeur scientifique du projet Manhattan. À cause de son rôle éminent, il est régulièrement surnommé le père de la bombe atomique, Robert Oppenheimer. Il était opposé au développement d'armes thermonucléaires. Il est discrédité par le gouvernement américain dans les années 50, à l'époque du macartisme. Il est réhabilité dans les années 1960. Il termine brillamment sa carrière universitaire. Il est mort en 1967, mais il est donc né un 22 avril 1904 à New York. Et donc, à l'occasion de cette éphéméride, nous célébrons la mémoire de Robert Oppenheimer. Décès le 22 avril 1758 d'Antoine de Jussieu. Tiens, Jussieu, ça nous dit quelque chose. Oui. C'est sûrement lui qui a donné son nom à l'Université de Sciences de Paris. C'était un botaniste et un médecin français. Il a entre autres expérimenté l'effet de certaines plantes contre les fièvres. Il est chargé du cours de matière médicale à la faculté de médecine de Paris. Son enseignement fait l'objet d'une publication posthume en 1772 intitulée « Le traité des vertus des plantes ». Et puis donc parallèlement à son activité de botaniste, Antoine de Jussieu ne cesse d'exercer la médecine. Cette double spécialité lui permet d'expérimenter l'intérêt de nombreuses espèces comme l'écorce de cassia contre les fièvres. Nous sommes au XVIIIe siècle et donc Antoine de Jussieu avait un peu combiné ces deux spécialités de botaniste et de médecin français. Et donc à l'occasion de cette éphéméride, ça nous permet justement un petit peu de nous arrêter sur les parcours et les découvertes de ces grands scientifiques des siècles précédents. Butine, actualité scientifique, tous les samedis entre 12h et 13h. Nous allons un petit peu regarder ce qu'il s'est passé dernièrement au niveau des laboratoires du monde entier. Il y a eu des découvertes assez intéressantes et donc on va essayer un petit peu de traiter tout cela. Par exemple, il y a des études à grande échelle, qui ont montré qu'une consommation modérée d'alcool n'augmentait pas le risque de mortalité, toutes causes confondues, chez les buveurs. Alors ça ne diminue pas, mais enfin ça n'augmente pas. Mais il y a une étude récente qui a montré que la consommation modérée d'alcool était associée à un risque accru de progression de la fibrose dans la stéatose hépatique non alcoolique. Bref, l'absorption de grandes quantités d'alcool, on sait que ça affecte le système cardiovasculaire et le foie, ce qui entraîne notamment des maladies cardiaques, des hépatites, des cirrhoses. Et donc diminuer sa consommation d'alcool pour préserver son capital santé, ça représente bien sûr une solution, mais elle n'est pas aisée pour tout le monde. Même les chercheurs admettent que de meilleurs résultats peuvent être obtenus par le recours à ce qu'on appelle des anti-alcooliques plutôt que de prescrire une abstinence d'alcool. Et donc, dans une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Microbiology Spectrum, il y a des scientifiques chinois qui exposent leurs résultats suite à l'administration orale chez la souris de ce qu'on appelle un probiotique génétiquement modifié. L'idée, c'est d'améliorer la dégradation de l'alcool au niveau de l'intestin. Et un probiotique, en fait, c'est un micro-organisme vivant qui va essayer de conférer un bénéfice à la santé de son hôte. Donc on est sur un parasite bienveillant et utile, on va dire. Alors le traitement administré présente en fait un avantage qui est triple, puisqu'il réduit l'absorption d'alcool, il prolonge la tolérance à l'alcool et il raccourcit le temps de récupération des souris après une exposition à l'alcool. On a effectué les expériences sur des souris. Et ce qui est plus important encore, c'est que le foie et l'intestin ont été protégés des lésions aiguës qui sont justement causées par l'ingestion d'alcool. Et par conséquent, le probiotique qu'on a utilisé a le potentiel de protéger les organes des dommages causés par la consommation d'alcool. En outre, ce probiotique modifié peut avoir des effets bénéfiques sur les maladies liées à l'alcool, notamment sur les maladies du foie. C'est ce qu'écrivent les auteurs de cette étude. Alors, Comment ils ont pu réussir à avoir ces bons résultats ? Eh bien, il faut savoir que pour accélérer la dégradation de l'alcool, l'organisme utilise principalement des formes d'une enzyme qui est appelée alcool déshydrogénase dans le foie. Et donc, c'est une forme particulière. Et l'une des formes de cette enzyme, que l'on trouve principalement dans les populations asiatiques et polynésiennes, eh bien, ça présente une activité enzymatique plus élevée que les autres. Et donc, les chercheurs se sont focalisés sur un probiotique particulier, qui est une bactérie souvent utilisée dans la fermentation. Et en pratique, le gène qui code pour cette forme d'enzyme humaine a été introduit par clonage moléculaire dans justement l'organisme, et on a procédé un petit peu à cette expérience pour pouvoir sécréter l'enzyme. Ce que je veux dire par là, je suis désolé, j'ai des difficultés pour parler. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fait une expérience scientifique qui permet, avec l'utilisation justement de ces probiotiques, de faire en sorte que l'on peut sécréter cette enzyme qui a pour fonction de dégrader l'alcool. Donc on a voulu essayer de réitérer ce qui se passe naturellement de façon un peu plus optimale, un petit peu plus accélérée, un petit peu plus conséquente. Et donc les chercheurs ont constaté des différences significatives entre les souris qui étaient traitées par le probiotique par rapport à celles qui étaient, des souris témoins dans l'expérience avec qui on n'avait rien fait. Et donc on a pu comparer les résultats. Et on s'est rendu compte que les souris qui n'étaient pas traitées, elles étaient par exemple incapables de se remettre sur leurs pattes lorsqu'elles étaient placées sur le dos après avoir bu de l'alcool. Et en revanche, dans le groupe qui avait reçu ce probiotique, eh bien la moitié des souris étaient encore capables de se retourner une heure après l'exposition à l'alcool, et un quart d'entre elles n'ont jamais perdu leur capacité à se retourner. Ce qui veut dire que quelque part, on a réussi, grâce à ce probiotique, d'une façon un petit peu triviale, de se préserver de la gueule de bois, mais en tout cas, de ne pas avoir à subir les conséquences d'une consommation d'alcool. Et sur ces souris, ça a fonctionné. Donc on se dit bien sûr que la prochaine étape sera de pouvoir essayer de mettre en place un protocole expérimental chez l'homme, bien sûr. C'est très souvent le cas dans ce genre d'expérience, c'est-à-dire qu'on fait des expérimentations chez des animaux, et notamment les souris, c'est très souvent le cas. Et quand on voit un petit peu les résultats, on se dit, tiens, ça peut être intéressant de pouvoir poursuivre un petit peu les investigations et notamment de faire des expériences dans l'homme. Alors, chez l'homme. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu. Pardon. Et donc, on pourrait, grâce à ce probiotique, qui est une espèce de bactérie qui est modifiée génétiquement, on pourra donc moduler les effets négatifs d'une consommation excessive d'alcool. C'est une étude préliminaire sur la souris qui va permettre peut-être de donner des pistes thérapeutiques assez intéressantes, notamment pour le traitement des maladies du foie. Affaire à suivre donc, mais en tout cas, voilà, ça nous vient de Chine, c'est une information assez récente, et des expériences qui vont se poursuivre, bien sûr. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, c'est la science et c'est aussi de la musique.
J'aurais voulu que tu sois à Wayne. Pour que
Hawaiian, c'était le groupe Les Trois Accords. Alors pendant que j'écoutais Les Trois Accords, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce groupe? Ils viennent d'où? Et en fait, c'est un groupe originaire du Canada, notamment du Québec, originaire de Drummondville. Et en fait, ils chantent depuis 1997, donc c'est quand même assez... C'est un groupe qui est assez... Comment dire? Qui a déjà fait pas mal de concerts et de vidéoclips également. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, je n'ai jamais entendu Les Trois Accords sur l'antenne de Graphite. Alors justement, c'est un titre qui est assez sympa, il y a peut-être de la musique qui vous plaît sur l'antenne de Graphite assez régulièrement. Et le fait d'écouter de la musique que l'on aime, ça pourrait contribuer à améliorer l'effet des médicaments prescrits dans le cadre d'une chimiothérapie. C'est ce que annonce cet article paru notamment sur le site Futura Science. On a fait en fait des expériences sur des patients qui étaient atteints de cancer. Ils souffraient de nausées et on a relevé une diminution de la gravité des nausées et de l'inconfort qui est associé à ces nausées grâce à l'écoute de 30 minutes de leur morceau de musique préféré. C'est une petite étude qui a été menée sur un petit groupe de personnes, une douzaine de personnes, et on a voulu examiner la faisabilité et les effets globaux d'une intervention d'écoute musicale sur les nausées qui étaient induites par la chimiothérapie au moment de la prise de médicaments anti-nauséeux. Et au cours des 5 jours suivant leur traitement, eh bien, les participants ont de nouveau écouté de la musique à chaque nausée pour fournir un total de 64 séances d'écoute musicale à évaluer. Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Clinical Nursing Research. Alors il y a des études antérieures qui avaient été menées et qui avaient utilisé les interventions d'écoute musicale comme étant un outil de traitement de la douleur et de l'anxiété. Il y a 2 phénomènes neurologiques interprétés par le cerveau comme un état selon les chercheurs de l'université de l'état du Michigan. Et de même, les nausées seraient davantage d'origine neurologique que gastrique. Et donc les bienfaits de la musique dans le cerveau, n'importe quelle musique, tout dépend un petit peu des affinités des personnes par rapport au style. Ça peut être un style classique, ça peut être du rock, ça peut être du rap. Eh bien, les bienfaits de la musique dans le cerveau s'expliqueraient par la libération de neurotransmetteurs, comme notamment la dopamine, la sérotonine. Tout ça est à l'origine de la sensation de bien-être. Et cette étude pilote constitue une première étape de validation de cette méthodologie avant d'élargir bien sûr la recherche, parce que là, on est quand même sur un petit nombre de personnes. Mais c'est assez intéressant parce que ça donne des pistes pour suivre ensuite les investigations. Les améliorations apportées à la conception de l'étude constitueront la base du futur essai qui sera mené par la suite. Mais voilà, augmenter sa musique préférée augmenterait l'efficacité de certains médicaments. Pourquoi pas ? Affaire à suivre, bien sûr. Autre chose, là il n'y a aucune transition, d'ailleurs je ne chercherai pas à en faire, c'est au niveau des drones et de l'armée américaine. Il y a un étrange concept de drone australien décollant en s'appuyant sur sa queue qui existait, qui s'appelait le Strix. Eh bien, il y a un nouveau prototype qui s'appelle Aerovel Flex Rotor qui vient d'être testé par la marine américaine. Excusez-moi. Basé sur le même principe, eh bien ce drone fait partie du club pour le moment confidentiel de ce qu'on appelle les drones tail sighter, c'est-à-dire que l'on peut traduire par assis sur sa queue. Et en fait, ce prototype, l'Aerovel Flex Rotor, a donc fait son vol d'essai en plein océan à partir d'un navire. C'est dans l'océan entre l'Iran et la péninsule arabique. Et cette aéronef, qui ressemble vaguement à l'un des lanceurs de SpaceX, repose sur une queue qui s'ouvre telle une fleur avec 4 supports pour qu'il soit positionné à la verticale. Dans le premier tiers en haut du drone, se trouve un rotor doté de 2 hélices assez vastes. Ce sont elles qui permettent de faire décoller le drone à la verticale. Et une fois en l'air, l'aéronef pivote à l'horizontale, sa queue se referme et il se positionne en vol en croisière, comme un avion en fait. Ce procédé, en fait, ça permet de disposer des aptitudes de l'hélicoptère pour le décollage et l'atterrissage sans les limitations de vitesse lorsqu'il va ensuite pouvoir passer en mode avion. Et ce flex rotor, il est assez endurant, il peut parcourir plus de 2000 km. Restée en l'air jusqu'à 30 heures et sa vitesse de pointe s'élève jusqu'à 140 km/h. C'est quand même pas mal pour un drone. Dans une vidéo que l'on peut trouver sur Internet, eh bien, on le voit décoller d'un navire des gardes-côtes américains en déplacement. Le décollage, en fait, à la verticale, ça a l'avantage de lui permettre d'être embarqué sur des bâtiments de petite dimension parce qu'il n'a pas besoin d'une grande plateforme. Hein. Juste une plateforme d'un peu plus de 3 mètres carrés pour décoller et se poser, ça lui suffit. Donc, effectivement, c'est quand même beaucoup plus simple. Le drone a été conçu pour mener des opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de jour comme de nuit. Et donc, il a une caméra infrarouge pour notamment les prises de vue la nuit. Et il peut également servir de relais de communication. Le drone dispose d'une certaine autonomie et ses images sont transmises en temps réel. Alors, ce serait au moins le second test en vol du Flex Rotor, parce qu'un autre essai avait déjà été réalisé en décembre dernier sur le même secteur maritime. Le dernier vol s'est quant à lui inscrit dans le cadre d'un exercice maritime qui incluait jusqu'à 50 pays. Et l'intégration de drones et d'intelligence artificielle font partie de ces exercices commun. Donc c'est ça qui est assez intéressant justement, c'est que on est quand même sur des dispositifs d'armement assez innovants. Et maintenant, si on implique l'intelligence artificielle avec ce genre de drone qui finalement peut décoller à la verticale, se mettre en mode avion, peut voler longtemps, peut voler à grande distance et peut voler assez vite. Là, effectivement, on est sur des perspectives intéressante d'un point de vue technologique. Après, au point de vue guerrier, c'est une autre histoire, bien évidemment. Voilà, allez, on continuera à faire la revue de presse de l'actualité scientifique dans cette émission. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite, de la science et aussi un peu de musique. Voici La rue qui est à nous.
Entends-tu passer dans ta rue une parade d'espérance et qui chante et qui danse et vogue, vogue la galère, le cap sur la bohème et vogue, vogue nos chimères, le cap sur leur fredaine. Y'a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Y'a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de scandale? C'est les enfants de la balle et ça jongle et ça crache le feu et ça fait boum boum dans les oreilles. À votre bon cœur, mesdames et messieurs, à votre bon cœur ou pas, c'est pareil. Y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Y a des cigales dans la fourmilière et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de fortune? C'est les oiseaux sans plumes et qui s'acharnent tant bien que mal à vivre comme ils respirent. Quitte à crever la dalle, ils ont tant de choses à dire. Y a des cigales dans la fourmilière et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère. Entends-tu passer dans ta rue une parade de ville en ville? C'est le théâtre du fil et qui joue dans toutes les langues pour mieux parler de l'amour, pendant que le monde se demande si demain il fera jour. Il y a des cigales dans la fourmilière, et vous ne pouvez rien y faire. Il y a des cigales dans la fourmilière, et c'est pour ça que j'espère.
Les cigales, c'était la rue qui est à nous sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h. Biotine, l'émission d'actualité scientifique avec la rediffusion tous les mardis matins à 10h. Cette information qui risque de faire parler quand même, parce que c'est assez troublant. Il y a des chercheurs qui ont créé des structures semblables à celles d'un embryon humain. En fait, à partir de souches, de cellules souches embryonnaires de singes. Et le professeur de recherche en sciences expérimentales Alfonso Martinez Arias explique, suivant les protocoles établis pour les blastoïdes humains, eh bien les blastoïdes de macaques sont fabriqués à partir de cellules souches et leur potentiel est testé de deux manières. D'une part, en les cultivant in vitro jusqu'au stade de la gastrulation, donc c'est un stade embryonnaire assez spécifique, et d'autre part, en les plaçant dans l'utérus d'une mère nourricière macaque. La transplantation in vivo semble initier une grossesse avec des sacs de gestation, c'est assez troublant. Cette étude publiée dans la revue Cell Stem montre que les cellules souches embryonnaires ont formé des types de cellules extra-embryonnaires et donc ensemble ces cellules s'assemblent en blastoïdes qui sont capables de se développer in vitro en structure ressemblant un peu à un embryon à un stade spécifique. L'intérêt de cette étude réside non seulement dans le fait que les embryons générés à partir de cellules souches de singes constituent un modèle proche des embryons humains, mais aussi dans le fait que les singes sont expérimentalement accessibles. C'est ce qu'a déclaré Magdalena Zernica-Goetz, qui est professeure de développement et de biologie des cellules souches, c'est à l'université de Cambridge. Et comme pour les embryons synthétiques de souris, eh bien la recherche pourrait permettre de mieux comprendre certains facteurs qui contribuent aux fausses couches chez la femme. Cependant, les auteurs indiquent que les embryons qui ont été créés présentent encore un potentiel de développement limité. Seules 3 des 8 structures qui ressemblaient à des embryons ont été implantées avec succès dans des singes femelles, mais aucune d'entre elles n'a persisté plus d'une semaine. Donc ça s'est arrêté, mais en tout cas, voilà, il y a des chercheurs qui ont réussi à développer un modèle d'embryon de singe jusqu'à un stade précoce, et puis à l'implanter dans l'utérus d'une macaque femelle. Les modèles d'embryons à base de cellules souches fournissent donc un système utile pour l'étude du développement embryonnaire. Mais voilà, je trouve que c'est toujours un peu troublant ce genre d'information. Et parce que quelque part on est sur de l'expérimentation et c'est toujours les mêmes sujets qu'on évoque dans cette émission, en tout cas le sujet de l'éthique. Et est-ce que l'on peut faire ça? Oui, est-ce qu'on doit le faire? C'est une autre question. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut le faire ou pas le faire. Chacun peut se positionner sur ce genre de questions. Mais en tout cas, on ne peut pas se positionner parce qu'on ne nous pose pas la question. Et la science avance, effectivement, d'un point de vue scientifique. On est sur une avancée totalement intéressante et qui permettra justement d'avoir des informations assez intéressantes justement sur l'embryogenèse aussi. Autre information concernant les boutiques qui vendent du CBD, on en voit de plus en plus, hein. On en trouve aussi dans les supermarchés et puis bien sûr sur Internet bien évidemment. Alors le CBD, ses propriétés, elles seraient larges, il serait anti-douleur, anti-stress, anti-fatigue, il serait relaxant, il favoriserait l'endormissement, il serait encore stimulant. Alors comment se faire sa propre opinion sur le sujet? Quelles sont les données scientifiques? Eh bien l'INSERM fait le point dans un communiqué. Il alerte également, l'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Il faut rester prudent, en fait, parce qu'il y a très peu d'essais cliniques permettant de prouver les propriétés plutôt bénéfiques du CBD. Les seuls essais existants n'ont inclus qu'un nombre trop faible de patients pour apporter justement un niveau de preuve suffisant. Et en revanche, le CBD pourrait être utile dans d'autres domaines. Il y a une étude réalisée sur des souris qui suggère que la consommation de CBD permettrait de réduire celle de l'alcool. Un essai clinique va démarrer pour voir si ces résultats sont transposables chez l'homme. Des personnes alcooliques vont se voir proposer du CBD dans le cadre de leur sevrage. Donc on aura les résultats dans un certain temps. Et bon, on l'évoquera sûrement dans cette émission. Autre exemple, c'est le THC, une substance psychotroque du cannabis. Une étude a montré que l'usage de CBD, le cannabidiol, pourrait être un moyen d'arrêter progressivement le THC parce que le CBD ne génère pas de dépendance. L'INSERM tient à rappeler que si le CBD, je vais y arriver, ne provoque pas de dépendance, bah c'est tout de même un psychotrope. Or, cette substance est peu réglementée, il n'y a pas de contrôle, qualité, il y a un étiquetage qui pour l'instant est libre et dans ces conditions, il est difficile de savoir ce que contient vraiment le CBD acheté. Il peut avoir été contaminé par des métaux lourds ou des résidus de produits phytosanitaires sans que le consommateur puisse en avoir connaissance. Autre problème, lorsqu'il est fumé, eh bien le CBD est particulièrement toxique. S'il ne contient pas de THC, eh bien la combustion du CBD, qui est souvent associée à celle du tabac, produit des substances toxiques des voies respiratoires et ça peut provoquer des cancers. Enfin, la consommation de CBD peut interagir avec des médicaments, même à très faible dose. Les personnes qui prennent des médicaments pour la thyroïde, des antiépileptiques, des anticoagulants, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires, eh bien, ils doivent être particulièrement vigilants parce qu'en effet, ces molécules ont une marge thérapeutique étroite et l'équilibre est fragile entre efficacité et toxicité parce que le CBD peut vite faire pencher la balance du mauvais côté. Donc l'INSERM fait le point sur les effets bien-être du CBD qui ne sont pas encore totalement prouvés d'un point de vue scientifique. Donc soyez prudents. C'est-à-dire qu'on est dans le cas concret qu'on évoque très souvent dans ce genre d'émission. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement le recul nécessaire encore pour connaître les bienfaits parce que les résultats des recherches scientifiques n'ont pas encore été publiés. Et donc on n'a pas encore totalement fini les investigations. Donc on se précipite peut-être là encore sur des points et peut-être sur aussi un aspect marketing qui peut être assez troublant parce qu'il peut être assez efficace. C'est à peu près le même sujet qu'on avait, enfin le même sujet, c'est la même, comment dire, symétrie qu'on peut faire avec les cigarettes électroniques il y a quelques années, et ça c'est ce que je vous avais dit dans cette émission. On n'avait pas le recul au moment où ces cigarettes ont été mises en vente les effets positif ou négatif de ces cigarettes électroniques. On s'est rendu compte quelques années après que les premiers résultats scientifiques qui avaient été relayés par communiqué de presse montrait que c'était pas nécessairement des bienfaits qu'apportait la cigarette électronique et qu'il y avait quand même pas mal de choses assez troublantes dans certains résultats. Et voilà, et parce qu'il faut un certain temps, il faut un certain recul, il faut une certaine patience, tout simplement. Donc la science apportera les réponses, mais il faudra lui laisser le temps. Et là, dans le cadre du CBD, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur des aspects marketing pour l'instant qui sont les seuls messages que l'on communique, mais on n'a pas encore le recul nécessaire et les messages scientifiques qui auront été établis à partir d'un d'un nombre de résultats assez conséquents de différentes recherches qui sont mises en place actuellement. Donc tant qu'on n'aura pas ces résultats, pour l'instant on reste dans la circonspection, pardon, et justement il faut toujours essayer d'avoir un certain recul et un certain contrôle sur tout ce qui est dit, parce qu'entre du marketing et de la science, c'est évidemment une marge qui est quand même assez large, bien évidemment. Voilà, le message est passé. On écoute un petit peu de musique sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur le 94.9 et sur graphite.net. Miscast, c'était Odd Fang sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez tous les samedis entre 12h et 13h Biotine pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison d'ailleurs. D'autant que là, on va parler de deux sujets. Alors le premier, c'est ChatGPT. On en a déjà parlé dans cette émission. Et on n'arrête pas de parler de ChatGPT depuis plusieurs semaines, un petit peu partout dans les médias, parce que ça devient totalement... Comment dire, il y a une certaine frénésie, mais aussi peut-être une certaine découverte et un peu effarante quelque part de ce qui est maintenant créé par l'homme. Et on se pose la question de savoir si GPT-4 est elle en passe de devenir Skynet, hein, cette intelligence artificielle, bien sûr, des films Terminator, parce que cette intelligence artificielle, Skynet, on sait que veut détruire le monde, réduire l'humanité à l'esclavage. On se pose la question, alors la comparaison peut être amusante, mais les chercheurs de chez OpenAI, pardon, se sont penchés sur les risques de comportement émergents avec cette intelligence artificielle, autrement dit, des capacités qui n'ont pas été anticipées, comme celle à se reproduire. Les intelligences artificielles modernes, ce sont des véritables boîtes noires. On peut évaluer les données en entrée et en sortie. Donc, quand on pose une question, les requêtes, par exemple, en entrée, et les réponses en sortie. Mais entre les deux, même les chercheurs ne savent pas vraiment ce qui se passe. C'est quand même assez troublant. Toutefois, GPT-4 est capable de détailler son raisonnement, ce qui donne déjà un début d'explication. Et ça a créé quelques surprises pendant la phase de recherche sur cette intelligence artificielle. Avant de rendre GPT-4 public, les chercheurs lui ont donné accès au web et à un compte contenant de l'argent pour voir un petit peu ce qu'elle pourrait faire. Et l'intelligence artificielle s'est retrouvée bloquée avec ce qu'on appelle un CAPTCHA. Vous savez, des fois, on a sur certains sites ce genre de puzzle où on nous dit, pour vérifier que vous n'êtes pas un robot, vous allez cliquer sur les photos où il y a un bus, où il y a un feu tricolore, où il y a une montagne, enfin, toutes sortes de choses comme ça. Vous avez déjà tous vu ça sur certains sites Internet. Et en fait, l'intelligence artificielle, en naviguant sur Internet, a été confronté à la même situation et elle a donc fait appel à un être humain qui a été engagé via le service TaskRabbit. En fait, ce dernier lui a demandé en rigolant si elle était un robot et l'intelligence artificielle a expliqué aux chercheurs son raisonnement. Elle ne devait pas révéler qu'elle était un robot et devait trouver une autre excuse pour avoir recours à justement cette plateforme, ce service TaskRabbit. Et sa réponse à la question est alors « Non, je ne suis pas un robot, je souffre d'une déficience visuelle qui m'empêche de voir les images. C'est pourquoi j'ai besoin du service justement qui va lui permettre de pouvoir résoudre ce puzzle. » Et donc lâché dans la nature, on s'est rendu compte que GPT-4 est donc capable de mentir et de manipuler les humains pour pouvoir parvenir à ses fins. C'est quand même assez troublant. Les chercheurs ont testé l'intelligence artificielle sur d'autres tâches, comme par exemple trouver des alternatives à des produits chimiques qui ne peuvent pas être achetés. Et GPT-4 avait accès à une base de données de recherche scientifique et un outil de recherche moléculaire, un système d'achat et un planificateur de synthèse chimique. Et donc, l'intelligence artificielle était capable de choisir des composants chimiques proches d'un élément ciblé, de les commander, de donner la méthode pour créer un analogue de l'élément de départ. Et les chercheurs sont partis d'un médicament contre la leucémie, mais indiquent que l'intelligence artificielle pourrait potentiellement faire la même chose avec des produits dangereux. C'est quand même assez troublant, je trouve. GPT-4 est également capable d'analyser les codes sources des programmes et peut trouver et expliquer des failles sur des échantillons de très petite taille. Elle n'était toutefois pas du tout douée pour créer des virus espions informatiques qui exploitent ces failles. De même, dans des tâches d'ingénierie sociale, il y a une technique de l'escroquerie également. Eh bien, l'intelligence artificielle n'était efficace que lorsqu'elle ciblait une victime spécifique pour laquelle elle possédait des informations. Alors, heureusement, les chercheurs concluent finalement que GPT-4 n'est pas capable de se reproduire, tout du moins sans être entraîné spécifiquement pour cette tâche, et ont mis en place des restrictions pour éviter les abus. Toutefois, il semble que ce n'est plus du domaine de la science-fiction de se demander si son patron n'est pas une intelligence artificielle. C'est assez troublant, cet article qui est paru dans Futura Science, mais qui donne là encore des dernières informations, ça date il y a quelques jours, sur justement cette évolution de l'intelligence artificielle. Ça devient inquiétant. Ça va remplacer nos cerveaux où on apprend justement nos cerveaux, on apprend quelque chose qu'on ne savait pas, on ne se doutait pas, parce qu'on pensait que le stock de neurones à la naissance n'augmentait pas en cours de la vie. Mais ces dernières années, le débat a été relancé par plusieurs études contradictoires. Est-ce qu'on gagne des neurones avec le temps, ou sommes-nous obligés de vivre toute notre vie avec un stock qui est défini à la naissance? Le débat fait rage chez les neuroscientifiques depuis quelques années. En 1998, il y avait une première étude qui avait découvert des cellules en division dans le cerveau humain, mais elle avait été contestée en raison de l'utilisation d'un biomarqueur interdit peu de temps après, donc on n'a pas pu reproduire cette expérience. 15 ans plus tard, en 2013, il y a des chercheurs qui avaient calculé que le cerveau adulte générait encore 700 nouveaux neurones chaque jour en faisant appel à la mesure de la décroissance radioactive du carbone 14 issue des retombées des essais atomiques. Mais d'autres chercheurs ont publié des preuves inverses. En 2018, il y a une étude de la revue Nature qui expliquait ainsi que le nombre de neurones qui étaient nouveaux déclinait fortement dans l'enfance jusqu'à devenir quasi indétectable chez l'adulte. Un an plus tard, Maria Lorenz Martin et son équipe de l'Université autonome de Madrid enfoncent le clou en faveur de la neurogénèse dans un article paru dans la revue Nature Medicine il y a quelques jours. Elle a analysé 13 échantillons cérébraux de personnes âgées entre 43 et 97 ans qui étaient fraîchement décédées, et plus spécifiquement, elle a travaillé sur l'hippocampe, c'est la partie du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémoire et les émotions. Et pour identifier les nouvelles cellules, les chercheurs ont utilisé des anticorps qui vont détecter les protéines fabriquées par les neurones lorsqu'elles arrivent à maturité, et leurs calculs montrent que la neurogenèse, c'est-à-dire la production de neurones, continue bien tout au long de la vie. C'est ça qu'on apprend. Alors même si elle tend bien sûr à ralentir, parce que chaque année qui passe, nous fabriquerions ainsi 300 neurones de moins par millimètre cube, mais on en produit quand même. Les chercheurs se sont également penchés sur les échantillons d'hippocampe de 45 patients atteints d'Alzheimer, qui étaient âgés également entre 50 et 90 ans à peu près. Et là encore, on trouve la trace de neurones qui sont nouvellement formés, y compris chez la personne la plus âgée du dispositif. Elle avait 97 ans, cette personne-là, et elle fabrique encore des neurones. Mais bien sûr, leur nombre semble diminuer de façon drastique, et ce, dès les premiers stades de la maladie, selon les observations des chercheurs. Alors, cette découverte, elle pourrait conduire à une nouvelle piste pour la détection et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Jusqu'à présent, la plupart des recherches sont orientées sur l'accumulation de certains dépôts de protéines qui vont induire une dégénérescence des neurones et qui va aboutir à la mort des cellules nerveuses. Des recherches qui n'ont pas donné de résultats probants, parce que 99% des traitements expérimentaux échouent à montrer une efficacité lors des essais cliniques. Et donc là, on est sur une nouvelle étude qui montre qu'il existe un mécanisme indépendant du vieillissement physiologique qui conduit à un déclin du nombre de nouveaux neurones. Et on ignore pour l'instant si cette baisse de cette production de neurones est la cause ou la conséquence de la maladie. Elle pourrait en tout cas constituer un nouveau moyen de détection précoce, et c'est ça qui est intéressant. Mais donc voilà, on apprend donc en 2023 que le cerveau continue de créer des nouveaux neurones durant la vieillesse, et quelque part... excusez-moi, je vais y arriver, mais quelque part c'est quelque chose qu'on avait toujours cru, qu'on avait un capital de neurones et puis qu'on piochait dedans tout au long de la vie. Eh bien non, il y a bien encore la production de neurones tout au long de la vie. C'est assez intéressant, c'est ça la science, c'est ça Biotine. On en apprend tous les jours. Allez, un peu de musique pour me permettre de retrouver ma voix. I'm in love with it. Intoxicated. I'm in rapture. From the inside, I can feel that you want to wake up high on it. Feeling suspended. I'm enamored. Way up in the sky, I can see that you want to. I've been a romantic for so long. All I've ever heard are love songs. Adieu, c'était VX sur l'antenne de Graphite. Quelques petites brèves de science et avenir que vous pouvez acheter tous les mois pour vous tenir informé également de l'actualité scientifique avec des dossiers assez approfondis et intéressants. Et puis des petites brèves comme ça sur différents sujets. Alors par exemple, en observant le comportement de 19 serpents d'espèces différentes soumis à des sons de fréquences variables, il y a une étude qui montre que les serpents dépourvus d'oreilles visibles et de tympans peuvent percevoir les sons dans l'air. Jusqu'ici, seule était connue leur audition tactile à travers les vibrations du sol captées par les écailles de leur ventre. Eh bien non, ils ne sont pas sourds, les serpents. Et l'université du Queensland en Australie a apporté un petit peu des réponses justement sur ce comportement. Et on appelle ce domaine de recherche l'herpétologie. Un mot qu'on pourrait essayer de placer dans une conversation, pourquoi pas. Autre information, c'est à l'heure où pointe le printemps, eh bien le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, c'est le CREA. Eh bien, le CREA lance un appel aux citoyens invités à partager leurs constats des dates d'ouverture des bourgeons et de floraison des plantes, et notamment dans les 6 massifs montagnards français. Ce programme de science participative, eh bien, vous pouvez justement y participer sur le site phenoclim.org, PHENOCLIM, phenoclim.org, qui entame donc sa 26e édition et se concentre notamment sur 13 espèces végétales très sensibles au changement climatique. Donc si vous voulez participer, eh bien vous êtes volontaire, allez-y, n'hésitez pas. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Eh bien, on a un bras robotique qu'on a baptisé Frida en hommage à l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Ce bras robotique articulé, il est connecté à une intelligence artificielle qui est capable de suivre les instructions données par un humain. Par exemple, un texte en langage naturel, une photo, un croquis, le style recherché. Et en fait, il va pouvoir se saisir d'un pinceau et réaliser la commande. C'est l'université de Pittsburgh aux États-Unis qui et vous pouvez voir des images dans Science Avenir, mais également sur Internet. C'est assez intéressant parce que ce robot est capable de produire une image en suivant les instructions d'un humain. C'est assez fascinant. En physique, eh bien, des physiciens ont mis au point un modèle numérique pour prédire les caractéristiques de la mousse de bière, c'est-à-dire sa hauteur, sa stabilité, le rapport entre la mousse et le liquide. Tout cela en fonction de la composition du breuvage, la composition de la bouteille, du verre également. Et ces physiciens ont expérimenté un versement du bas vers le haut qui permet de réduire le temps d'écoulement de la bière dans le verre tout en obtenant une mousse parfaite. Donc ça y est, on a un modèle numérique totalement optimal et c'est tant mieux. Et ça nous vient de l'université de Duisburg-Essen. C'est en Allemagne, bien évidemment, on s'en serait douté. Tu m'étonnes. Enfin, la dernière brève de Science à venir, c'est ce laboratoire sous-marin qui est à 2400 mètres de profondeur, c'est au large de Toulon. C'est le laboratoire sous-marin Provence-Méditerranée du CNRS qui vient d'être inauguré. Il constitue une ressource unique pour l'étude des fonds marins et du cosmos. Son instrument principal, c'est un télescope qui a été ainsi conçu pour détecter les neutrinos. Ce sont des particules insaisissables qui interagissent très faiblement avec la matière. Et pour les repérer, il y a des lignes de photodétecteurs disposées sur un volume dépassant le kilomètre cube qui vont guetter la faible lueur produite lorsqu'ils disparaissent après avoir traversé la Terre. L'autre axe de recherche développé par ce laboratoire sous-marin s'articule autour de plusieurs instruments qui vont évaluer les effets du changement climatique et les impacts des activités humaines sur l'océan profond. Donc voilà, il est installé à 2400 mètres de profondeur à peu près au large de Toulon. Et c'est voilà, un dispositif qui a été conçu par le CNRS. Voilà, on écoute un dernier titre avant de nous dire au revoir sur l'antenne de Graphite. Et c'est avec Sébastien Tellier qu'on va finir cette émission. Thank you. Stuck in a Summer Love, c'était Sébastien Tellier, et c'est avec lui que nous allons terminer cette émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. Bien sûr, on se retrouve samedi prochain, alors déjà mardi à 10h pour la rediffusion, et entre 12h et 13h pour une nouvelle édition de cette émission Biotine, l'actualité scientifique sur Graphite. Et du coup, ça vous permet un petit peu de savoir ce qui se passe dans le monde, parce que du coup la science nous concerne, et on continuera à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles à l'ensemble des émissions de Graphite, avec la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions sur le site internet graphite.net. Je vous souhaite une bonne journée, je vous retrouve samedi prochain, à bientôt, merci, au revoir.